Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission dédiée aux programmeurs qui parle de technique, bien sûr, de code durable, mais aussi du métier en lui-même, de recrutement, de développement personnel ou encore d'entrepreneuriat pour t'accompagner dans une vie de développeur épanouissante. Alors, es-tu prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti ! Aujourd'hui, je suis avec Michael Acbarelli et Jonathan Duberville. Bonjour les gars.
Salut.
Salut Benoît.
Aujourd'hui, on va travailler autour de la notion de pérennité d'équipe. Comment rendre une équipe pérenne sous l'égide de cette question de la reine de cette semaine ? Préfères-tu développer ta polyvalence ou ton expertise ? Bien évidemment, rejoins-nous dans l'arène pour participer à cette question. arène.artisandeveloppeur.fr. Je vous passe la parole, les gars. C'est la première fois que vous passez sur le podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, en général, je dis une minute, mais vous êtes deux, donc ça vous fait 30 secondes chacun.
Ok. Alors, je vais commencer. Moi, c'est Michael. Je travaille pour Octo. Je suis dans le campement Provence. Ça fait 6 ans que je bosse chez Octo. Et donc, j'ai commencé en tant qu'expert front. Et aujourd'hui, je fais plus de tech leading.
Ok.
Donc, moi, je m'appelle Jonathan. Je suis dans le campement qui est à l'opposé de la Provence, à Lille. Et je suis aussi tech lead chez Octo. Je suis arrivé déjà sur un poste de tech lead. Et avant, effectivement, j'ai eu aussi ma petite tendance expertise.
Alors là, tout de suite, j'ai envie de vous poser une question. C'est quoi un expert, un tech lead chez Octo ? Il fait quoi ? C'est quoi ses missions ?
Alors nous, on a ce qu'on appelle une posture. On demande d'adopter une posture. Enfin, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, mais on a 4 pans dans la posture d'un tech lead chez Octo. On lui demande d'être un expert, d'avoir un pan, un domaine sur lequel il a une très bonne connaissance, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi qu'il sache être un bon facilitateur, faire que les interactions dans son équipe se fassent de manière naturelle. Il faut qu'il sache aussi coacher les gens, qu'il sache les faire monter en compétences. Et le dernier que j'oublie toujours, Jonathan ?
Mentor. Oui. En fait, dans cet aspect-là, on part du principe qu'un tech lead, en général, il va devoir aussi faire... aider ses collègues dans justement les décisions de carrière, quelle expertise je devrais développer, dans quel sens je dois aller, etc. Et on accorde beaucoup d'importance à ça, effectivement. Sur l'aspect expert, ce qui est cool, c'est que officiellement, entre guillemets, donc dans Culture Code, qui est un de nos ouvrages blancs qui est disponible, on dit clairement qu'un tech lead doit au minimum coder 30% de son temps, au minimum. Donc effectivement, cet aspect expert, on y tient quand même beaucoup.
Ok, et pendant la préparation de l'épisode, vous aviez un angle d'attaque justement de cette question de l'expertise versus la polyvalence que j'aimais bien. Vous l'attaquez sous l'angle de la pérennité de l'équipe. Est-ce que vous pouvez développer un peu l'idée qui est derrière pour vous ?
Oui, alors en général, quand on arrive sur une mission, quand on nous appelle, c'est surtout pour tacler un problème, on va dire, technique, ce qui fait qu'on va faire appel à des experts en front, des experts Java, pour aider une équipe qui est déjà existante à résoudre un certain problème. Le problème de cette approche, c'est que souvent, l'expert vient, il va faire son travail. Et une fois qu'il sort de la mission, l'équipe qui est, elle, présente n'arrive pas forcément toujours à reprendre ce qui a été fait par l'expert. Donc, ce qui manque, c'est surtout une montée en compétence de l'équipe complète. Et c'est ce sur quoi nous, on essaie de faire très attention et de faire en sorte que, OK, on vient d'abord pour apporter une expertise, mais très souvent, quand on est en mission, on se rend compte que il n'y a pas que ce petit point qui pose problème, mais que c'est beaucoup plus vaste. Et là où on va assurer la survie ou la pérennité de notre mission, c'est quand tout le monde montrera aussi en compétence avec nous sur les différents sujets qu'il y a à tacler.
En fait, on peut même aller un peu plus loin parce que Michael nuance beaucoup en disant ce petit point. Moi, j'ai même la sensation que sur la plupart des projets où où on arrive sous cette bannière expert, ça va nous aider à passer la porte. Une fois qu'on est arrivé, on se rend compte que le problème, c'est quasiment jamais l'expertise. C'est beaucoup d'autres choses.
C'est quoi les exemples que tu as en tête, par exemple, récemment, de missions plus ou moins récentes que tu as eues? C'était quoi les problèmes profonds?
Un problème assez courant, c'est une fois qu'on arrive dans l'équipe, on se rend compte, par exemple, que les développeurs ne comprennent pas le métier pour lequel ils codent. Ça, c'est assez courant. Les besoins sont formalisés sur un format qui est assez à la mode en ce moment, c'est la user story. Sauf que cette pratique-là, ça accompagne d'autres pratiques autour qui aident à justement avoir un besoin métier qui soit le plus affiné possible pour pouvoir commencer à travailler. Et déjà, un premier biais ou un premier problème qu'on peut observer, c'est que ce besoin métier, il n'est jamais suffisamment travaillé. Donc, le développeur commence à coder. On se retrouve potentiellement avec des bugs en production qui ne sont pas liés au fait que le développeur code mal, qu'il fait mal son travail de code, mais qu'il a eu une mauvaise compréhension de ce qui avait été exprimé à la base.
Ouais, ça, c'est un biais que je vois souvent, effectivement, où on a remplacé la vieille spec d'avant. Ça. Les spécifieurs, ils ont bien compris leur intérêt. Des post-it, c'est vachement plus léger. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a l'échange, voire même... Et ça, je le vois parfois d'équipes où c'est les devs eux-mêmes qui disent « Non, mais vos sprint planning, vos machins, c'est long, c'est barbant. » Je les vois qui sont un peu impatients de retourner à leur clavier et de commencer à coder. Et tu te dis « Mais si on n'a pas passé un minimum de temps, comment vous allez comprendre ce que vous allez devoir coder quoi ?» Parce que je veux dire, il y a des métiers qui, à la rigueur qu'on peut s'approprier facilement parce que on le comprend bien. Et puis, il y a des métiers, ce n'est pas tout à fait la même quoi. Comment ça te fait réagir par rapport à ce que vous voyez sur le terrain?
Non, c'est souvent ça. C'est quand on rentre sur une mission, souvent le client, quand il nous appelle, c'est souvent pour des problèmes techniques. Et par expérience, c'est le plus gros des soucis est plutôt dans la communication de l'équipe, entre le métier et la technique. C'est là surtout qu'il y a des efforts à faire. Ce qui fait que la technique en elle-même, c'est quelque chose qui devient secondaire dans l'approche qu'on a du tech leading, de ce qu'on doit apporter en tant que consultant sur une mission.
Ce qui est paradoxal quand même, parce que finalement, c'est quand même pour ça que vous êtes appelé à la base, quoi. Donc il y a ce truc, il faut rentrer, mais une fois qu'on est rentré, on vient traiter autre chose, quoi, en fait.
Je pense que le fait d'avoir une expertise nous donne une certaine légitimité par rapport à l'équipe dans laquelle on va intervenir. Donc c'est on montre un peu patte blanche, on montre que on n'est pas des rigolos qui venons un peu leur apprendre la vie de manière top down, mais plus se mettre à leur côté, travailler avec eux, comprendre leur manière de faire et petit à petit les amener vers une approche beaucoup plus large et de pointer les réels problèmes. On part sur des problèmes très très techniques et petit à petit on amène les gens à lever la tête, de dire ah vous êtes sûr que vraiment le problème il vient de la qualité de votre code et est-ce que c'est pas plutôt parce que comme dit Jonathan vous avez pas compris ce qu'on vous demandait de coder.
Et du coup, si on revient sur la question de la battle, préfères-tu développer ta polyvalence ou ton expertise? Vous aviez un point que j'aimais bien, qui était en début de carrière, souvent on va avoir envie de s'intéresser à l'expertise, et puis après, à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a pas que ça. Est-ce que tu peux réélaborer là-dessus, Jonathan ou Mika?
En fait, quand on commence à coder, donc tu le disais tout à l'heure, c'était marrant parce que je me retrouvais pile dans ça. Quand on commence sa carrière de développeur, en général, on a juste envie de manger du code. Et ça fait tellement de bien d'écrire 1 million de lignes de code dans la journée. Surtout, on a l'impression d'être productif et de mettre des trucs en prod et de pouvoir montrer à ses potes en disant « c'est trop cool, regarde ce que j'ai codé, tout le monde va l'utiliser, ça va être génial ». Cette euphorie-là, en fait, elle va pouvoir persister un moment. Mais en général, quand on commence à prendre des responsabilités autres au sein de l'équipe, nous, on met ça sous le rôle de tech lead. On se rend compte qu'en fait, au-delà d'avoir des collègues qui qui maîtrisent bien leur environnement technique, on note en fait qu'il y a d'autres problèmes. Et c'est là où je trouve qu'en général, on va voir les développeurs qui entre guillemets sont assez matures pour passer à la phase d'après. Phase d'après qui est comment je fais maintenant que je sais coder, maintenant que je maîtrise mon environnement technique, comment je fais pour coder la bonne chose et de la bonne façon. Et ça, c'est un peu plus challengeant parce qu'on ça fait entrer des pratiques qui sont pas forcément du développement. On a beaucoup de pratiques humaines. Nous, on parle beaucoup de CNV, communication non violente. Comment je fais pour dire à mon collègue, par exemple, qui a fait une fonctionnalité, que cette fonctionnalité n'est pas de la meilleure qualité qu'on puisse offrir, sans le vexer, sans le blesser et sans en faire un ennemi au sein de l'équipe. On arrive très rapidement et très maladroitement à briser des équipes juste en n'ayant pas les bonnes approches sur ces pratiques-là. Et ça, l'expertise technique ne nous aidera pas.
Ouais, ce que je vois moi aussi, c'est des tech leads qui rebondissent sur des équipes qui sont soudées. Et j'ai des exemples en tête de tech leads qui arrivent et qui, ou de gars, pas forcément avec le statut de tech lead, mais qui ont une manière de faire beaucoup plus élaborée et qui se font rejeter leur PR, quoi. Parce que. Ils ont un peu trop refactorisé de choses et ça passe plus auprès de l'équipe, quoi.
Et sur ça, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour un peu diluer la responsabilité. La responsabilité ne tient pas qu'au tech lead ou qu'à l'expert, mais faire en sorte que tout le monde participe à l'élaboration de la fonctionnalité ou de la nouveauté qu'on veut apporter. Et on peut parler notamment du mob programming. Je ne sais pas si tu connais Benoît.
Ouais. Ça me parle.
Ça te parle ? Ok. Bon, juste le mob programming, c'est mettre tout le monde autour d'un écran qui diffuse le même code et tout le monde réfléchit au problème en même temps et tout le monde essaye de tacler le problème en même temps. Ce qui fait que l'expert et le junior seront au même niveau et réfléchiront ensemble.
Quelle est la grande vertu que tu vois de cet exercice avec cette logique-là ?
L'intelligence collective, c'est que le code appartient à tout le monde.
Tu renforces le sentiment d'appartenance ?
On renforce le sentiment d'appartenance. Les choix sont faits de manière collégiale, ce qui fait que tout le monde a son mot à dire sur, on va dire, la convention de nommage ou la structuration du projet, enfin, sur tout l'ensemble. Donc, On évite, on va dire, les débats un peu stériles qui peuvent apparaître dans certains cas où quelqu'un qui est en position d'expert on le considère comme celui qui va prêcher la bonne parole et qu'on peut jamais remettre en question. Alors que d'abord, un projet, c'est une équipe, donc il faut tout le monde a son mot à dire sur la manière de faire.
Eh ben, écoute, Mickaël, je te propose que ce soit le mot de la fin. Merci, Mika. Merci, Jonathan.
Merci à toi.
Merci à toi.
Quant à toi, cher auditeur, je t'invite à nous rejoindre dans l'arène, arène.artisandeveloppeur.fr. Préfères-tu développer ta polyvalence ou ton expertise ? À tout de suite. Et en fait, non, à demain.